Antoine habite dans un appartement d'une petite ville de la côte lémanique avec sa femme Milka. 55 ans de mariage, me disent-ils, assis à la table de leur coin salle à manger autour d'un café. Antoine me dit qu'il n'est pas certain qu'il ait beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il est parfois difficile de trouver son chemin dans ses souvenirs. Ça s'en mêle, ça s'entrelace, ça se confond et on a peur de ne pas être assez clair. Vous voulez en savoir plus ? Bienvenue dans « Il était une fois des sages », un podcast créé et réalisé par Marie Ray. La musique est composée par Pascal Rocha. Antoine est un homme de la terre, le cœur sur la main et la sensibilité à fleur de peau. Son mouchoir en tissu qu'il garde dans la poche de son pantalon n'est jamais très loin. Il dit qu'il a souvent plein d'eau dans les yeux. C'est vrai, son regard bleu piscine est souvent humide. Mais cela lui donne encore plus de douceur et d'humanité. Quand on est avec Antoine, on se sent bien. Il dégage une force tranquille qui invite au calme. Quand on l'écoute parler, on est aussitôt plongé dans la vie sereine du beau pays de Vaud. Qui es-tu, Antoine ?
Un Vaudois de 78 ans. Moi, je suis né en 44, à la fin du mois de juillet, fin de la guerre.
Antoine a toujours vécu entouré de monde. Petit dernier et septième de la fratrie, ce n'était pas de tout repos à la maison pour sa maman.
Alors, je suis né dans la famille Pache, à Pont-Farbel, où nous étions sept enfants. Je suis le dernier. Oui, nous avons vécu une vie heureuse dans cette grande famille. Mon père était assez... Ouais, il était cool, mais autoritaire quand même. Ma mère aussi un petit peu. Et puis, nous avons eu... À cette époque, deux cousins qui sont revenus de Berlin avec leur maman. Après la guerre, leur papa est parti sur le front russe. Et voilà, nous avons vécu encore avec ces deux cousins. Donc nous étions une grande famille. Parce que ces deux cousins vivaient avec nous. Mes parents étaient agriculteurs. Ma maman était maîtresse de maison. Elle est née dans une famille d'imprimeurs à Nyon. Elle est venue à la ferme pour accompagner son mari en 1924. Et puis elle a eu toute cette famille qui est arrivée. Et puis voilà, elle s'est débrouillée avec tout ce qu'il y avait. Ça n'a pas été facile pour elle, qui vivait dans une petite famille de trois filles à Nyon. Elle ne connaissait rien sur l'agriculture. Son papa était imprimeur, et puis elle a donné un coup de main à son papa quand elle était jeune. Puis ensuite, elle est devenue la maman de neuf enfants, avec les lessives à la brosse. Hein. Il n'y avait pas de machine à laver, ni même la machine à laver la vaisselle. Alors la vaisselle, on a appris ce que c'était très jeune, parce qu'il fallait essuyer la vaisselle. À 6 ans, on essuyait la vaisselle. Maintenant, on ne les suit plus. Bon, ça a changé.
Sa grande sœur s'est beaucoup occupée de lui. Il parle d'elle comme d'une petite maman. Antoine, il aimait bien être occupé. Et surtout qu'on lui fiche la paix.
Mais j'aimais bien être occupé à... Ouais, aller chercher le bois pour le fourneau de la cuisine. Enfin, pour tous les fourneaux, parce qu'on avait beaucoup de bois et puis beaucoup de fourneaux. Une maison où il y avait, je sais pas, il y avait beaucoup de chambres. Ma mère, j'entends toujours ma mère secouer les cendres le matin à 5 heures pour qu'on ait chaud. Parce que c'était une maison à courant d'air, cette ferme de Pont-Farbel. Il y avait les vitres branlées, elles étaient mal assujetties. Et voilà, on était dans cette ferme où il a fallu lutter. L'hiver, il fallait lutter contre le froid. avec ses fourneaux à bois. Et puis quelquefois, ma mère mettait une briquette le soir pour que ça dure un peu plus longtemps, pour que le feu dure un peu plus longtemps.
Toute la famille habitait donc à Pont-Farbel, un domaine pas loin de la commune de Gland. Antoine se rappelle la grande cuisine au rez-de-chaussée, tout près de la cour, qui pouvait accueillir deux grandes tables de 10 personnes chacune. Il y avait des employés qui travaillaient à la ferme, notamment pour s'occuper du troupeau de 25 vaches. C'est à cette époque qu'Antoine s'est essayé un peu à l'italien.
Un pochettino. Oui, ces femmes qui venaient pour travailler la vigne, enfin travailler les feuilles, elles venaient du Val d'Aoste. Mon père allait les chercher à Aoste, enfin dans un petit village en dessous d'Aoste, pour faire ses travaux. Elles restaient 6 semaines chez nous. Alors ça faisait aussi partie de la tablée pendant l'été. Il y avait du monde, il fallait serrer un peu les coudes à ces tables, et puis voilà. C'était un peu le petit restaurant de Pont-Farbel.
Les parents d'Antoine n'étaient pas propriétaires. Le domaine appartenait à une famille suisse qui habitait à Paris.
Et ils venaient pendant les vacances. Ils venaient pendant les vacances pour vivre ici à Pont-Farbel. Et ils profitaient d'un jardin que nous avions auparavant cultivé. On avait 2 gros jardins. Des jardins de 600 mètres carrés. Oui. Alors, il fallait faire attention de ne pas aller cueillir les fraises dans le carreau des propriétaires, parce que c'était pas permis. Je me rappelle qu'il y avait un figuier aussi. J'aimais beaucoup les fruits. Genre les figues, des fois, j'en piquais une, pas ça. Alors, le jardin, c'était quand même quelque chose. C'était à côté de la ferme. On y passait quand on voulait. C'était quelque chose d'assez bizarre. C'est que mon père nous disait, vous savez qu'on n'est pas chez nous. Hein, on est chez des propriétaires. Il faut respecter les propriétaires, respecter ce qui leur appartient. Pas les gêner, pas crier dans la cour, jouer au ballon, mais pas casser les géraniums. Fallait faire attention à tout ce qu'on faisait.
Antoine n'a jamais pensé à faire autre chose que le métier d'agriculteur. Il n'a jamais été obligé, mais cela coulait de source.
On m'a pas dit qu'il fallait le faire. J'ai eu du plaisir à soigner mes veaux, mes petits veaux. Le mercredi, en plus, pendant le printemps, il fallait sortir ces veaux pour qu'ils puissent gambader. Comme il est dit dans la Bible, les veaux gambaderont. Sauteront de joie. Et ouais, je me suis mis gentiment dans cette ambiance d'agriculteur sans qu'on me demande si je voulais bien faire ça.
À l'âge de 17 ans, il est envoyé en Suisse allemande à Andelfingen pour une année d'apprentissage. Sa famille avait veillé à ce qu'il soit près d'une assemblée d'arbitres. Il fallait pas qu'il se perde par là-bas.
Par contre, je suis parti en Suisse allemande parce qu'il fallait aller en Suisse allemande pour apprendre le métier, l'apprentissage contrôlé. Donc, je suis allé dans le canton de Zurich. On a bien veillé à ce que je sois tout près d'une assemblée chrétienne à Andelfingen, où j'ai aussi appris le Schweizerdeutsch. Il me reste un petit peu quand même pour me débrouiller. Oui. Ouais, ça va. Alors, j'étais en place là-bas. J'étais pas dans une famille chrétienne spécialement, mais il m'avait dit, le patron m'avait dit, il te faut pas aller chez ces gens là-bas à Andelfingen. Tu peux venir à l'église ici. Il y a une jolie église chez nous, au village. C'est vrai qu'elle était à côté de la ferme, dans le village. Et puis, je lui dis, mais moi, je veux bien venir à cette église, mais tu n'y vas pas, toi. Parce que quand je suis allé en Suisse allemande, ça a été mon année la plus dure. L'apprentissage à 17 ans. Quand vous arrivez avec un bagage d'allemand de l'école primaire, on arrive là-bas, canton de Zurich, on écoute ce que le patron dit. Je dis, mais il parle quoi? Le Schweizerdeutsch? Moi, je ne connaissais rien du tout. Je ne savais même pas comment on disait « ferme la fenêtre ». En allemand. Enfin, en allemand, je savais, mais pas en suisse allemand. Et le patron m'avait dit, Anton, moi je fais te zu. Puis je lui dis, tu me dis quoi? C'est quoi c'est ce que tu viens de me dire? Moi j'ai appris l'allemand à l'école, hein, mais pas le Schweizerdeutsch.
En plus de la barrière de la langue, la vie à la ferme était très dure. Comme il dit, je l'ai roté. Il se levait chaque jour à 5h du matin, il travaillait tout le jour, à peine une pause à midi, et ce jusqu'à 8h le soir. Le dimanche après-midi, quand il avait congé, bah, il dormait. Il en avait ras la patate. Au bout de 2 mois, il n'en pouvait plus. Il s'en est ouvert au contrôleur des apprentis qui a tout répété au patron. Et celui-ci a traité Antoine de fainéant. Alors Antoine a voulu rentrer chez lui en Suisse romande. Ah non, c'était beaucoup trop difficile. Un jour, il a appelé son père au téléphone en lui disant qu'il allait revenir à la maison, que ça n'allait pas du tout. Son père ne lui a même pas répondu. Il lui a raccroché au nez. Le son du téléphone qui se croche, Antoine l'entend encore aujourd'hui. L'éducation à l'époque, c'était « bah c'est comme ça et pas autrement ». Mais voilà qu'un événement va changer le cours de la situation.
Mon patron s'est cassé le bras au mois de juillet. Tu vois, quand un patron se casse le bras, il n'y a plus personne pour conduire le tracteur. Et moi, je conduisais le tracteur déjà pour plus d'années que lui. J'y connaissais, mais je n'avais jamais conduit là-bas. Ce n'était pas pour l'apprenti. C'était pour le patron. Et voilà, un patron qui a un bras cassé. La patronne me dit, Antoine, tu veux bien faire ce travail avec le tracteur? Je dis, pas de problème.
Dans cette année difficile, il y a eu 2 choses qui l'ont aidé. La première, c'est la voisine, qui devait avoir dans les 14-15 ans. Antoine lui avait tapé dans l'œil et lui n'était pas insensible. Alors qu'un jour, il était accoudé à une barrière, elle a traversé la cour et est venue embrasser Antoine. Pas juste un bec, hein, une galoche, comme on disait. Il s'y attendait pas du tout. Sa mère s'est doutée de quelque chose quand Antoine lui a beaucoup moins écrit. Ben forcément, il était occupé ailleurs. La deuxième chose qui a fait la différence, c'est sa patronne.
Mais j'avais une patronne en or. Elle avait 6 enfants. Je dis, ben, elle a du boulot aussi. Elle faisait le pain en plus. Chaque semaine, le mardi, elle faisait le pain. On donnait un coup de main pour pétrir le soir, après 8 heures. Hein. Elle nous faisait des repas tous les jours, elle s'occupait de ses enfants. Et puis, c'est elle qui m'a donné le tracteur. C'est pas lui. C'est elle qui m'a dit, ça c'est pour toi. Parce qu'elle savait que chez nous, on était beaucoup plus moderne déjà. Puis elle était toute contente que je prépare du terrain avec ce tracteur. Je ne l'ai pas cassé, parce que je connaissais. Et puis j'étais tout heureux.
Antoine a gardé quelques relations avec cette famille. Il a d'ailleurs appris que l'ancien conseiller fédéral Blocher avait fait son apprentissage dans cette ferme 3 ans avant lui. Son patron était quand même quelqu'un de particulier. Un jour, alors qu'Antoine était dans la région, il est allé le visiter.
Alors j'ai vu le patron qui était tout souriant de me revoir, la patronne aussi. Alors le patron me dit, en Schweizerdeutsch, il me dit, mais où est-ce que tu as appris l'allemand? Ben chez toi. T'as jamais parlé, qu'il me fait. Ben non, je sais. J'ai jamais parlé. Mais maintenant, je sais. C'est vrai que c'était lui qui parlait. C'était pas l'apprenti. Hein, l'apprenti, c'est le Stift. C'est celui qui doit écouter, puis faire.
À la fin de son apprentissage, il a dû faire des examens à Marcelin, vers Morges. Mais ce n'est pas une épidémie de Covid qui l'a empêché de les passer.
Il y avait la fièvre hâteuse dans le canton de Vaud et à Morges. Donc, interdit d'approcher les vaches. Pas d'examen. Alors, j'ai passé mes examens agricoles. Sans pratiquer. Même pas le tracteur.
Un jour, son frère a fait appel à lui. Il avait repéré une fille. Antoine devait jouer les détectives. Ce qu'il a fait bien volontiers, ne se doutant pas que cela allait changer le cours de son histoire.
Il m'avait demandé des renseignements quand j'étais à Marcelin sur une fille qui était peut-être fiancée, mais il ne savait pas trop. Puis je me suis renseigné, puis voilà, puis pour finir, il s'est déclaré à cette fille qui était Anne-Marie Anchot. Et puis qui est devenue la femme de mon frère, oui. Puis ensuite, nous avons eu des répétitions de chants pour les mariages, pour le mariage de mon frère. Et puis voilà, moi j'ai découvert qu'il y en avait encore une ou deux qui étaient assez jolies. Ça m'a intéressé. Et puis voilà, puis Milka, je l'ai eu dans l'œil assez longtemps.
Malgré cette étincelle, il est quand même parti en stage en Hollande. Et on lui a bien répété, tu verras, tu vas trouver une fille là-bas.
Oui, il y en avait. Il y en avait même à l'assemblée de Zaandam. Hein, mais non, je suis revenu. Je suis allé chercher Milka.
Il ne lui a pas fait une déclaration à la Cyrano, ni mis un genou à terre, mais il a pris sa plus belle plume.
Oh, je lui ai écrit une lettre qui a fait rire toute la famille, parce que ma belle-mère, elle était toute contente qu'un frère chrétien fasse une demande en mariage. Elle savait tout de suite ce que c'était dans cette lettre. Elle ne l'avait pas ouverte, mais elle savait. Et puis voilà, et puis Milka s'est déclarée. Elle a mis un petit peu de temps à se déclarer parce qu'elle avait un ami. Alors, voilà. Pour finir, elle m'a dit oui un jour. Et puis on s'est dit, mais il faut aller de l'avant. Puis comme Milka était une fille d'agriculteur, en plus, je lui ai dit, elle va comprendre le métier.
L'ami en question de Milka n'a pas bien compris pourquoi elle avait bifurqué. Outre le charme indéniable d'Antoine, c'est sa foi qui a fait la différence. Leurs parents les avaient bien mis en garde et dit que c'était un vrai atout de choisir un conjoint chrétien. Ils se sont mariés et ont habité 2 ans avec le frère et la sœur sur le domaine familial. Ils avaient pu rénover la maison grâce au gravier vendu pour faire l'autoroute. Bien qu'ils s'entendaient bien, ce n'était pas sans friction, vu qu'ils partageaient la cuisine et la salle de bain. Antoine raconte que lorsqu'il revenait de l'étable sur les coups de 9h, pour se laver, son frère utilisait systématiquement la salle de bain à ce moment-là, alors qu'il avait tout le temps d'y aller avant. Ils ont finalement quand même travaillé ensemble pendant plus de 30 ans.
Oui, nous avons mon frère et moi. Mon papa disait, mais il faudra te marier parce que maintenant, je vais remettre cette ferme et puis il faudra que vous la repreniez entre les deux frères ensemble. Une association, parce qu'il y avait assez, il y avait de la vigne, des céréales, des pommes de terre, du bétail. Il y avait assez pour se remplir la diversité. Hein, c'était une diversité qui ne se fait plus aujourd'hui. On est devenu plus spécialiste en fruits, en vigne ou en bétail laitier ou des choses comme ça. Avant, c'était tout. Alors, à deux, c'était mieux gérable.
Antoine et Milka ont eu 3 enfants, Alain, Reynald et Myriam. Quand Antoine parle d'eux, on perçoit la fierté entre les mots. Il ne pense pas avoir été aussi dur que son père, mais il avait une certaine exigence. Il aime le travail bien fait. Peut-être que son année en Suisse allemande y est pour quelque chose. Dans les années 1970, ils se sont mis à la recherche d'un domaine à exploiter dans la région, mais à chaque fois qu'ils pensaient avoir trouvé, cela ne se concrétisait pas. Il dit tout simplement « Dieu n'a pas ouvert les portes ». Et puis un jour, un oncle qui avait aussi une ferme a proposé à Antoine de venir exploiter le domaine.
C'est au mois de décembre. Il dit, ouais, au 1er décembre, tu peux reprendre ça. Puis il voulait me la remettre comme ça, comme on remet un bout de papier à quelqu'un. Puis mon père m'a dit, non. Il faut refaire une reprise inscrite, signée, avec des conditions. Comme ça se fait dans le monde. Parce que, dans la famille, si tu fais une chose comme ça, il y a des machines... utilisé, il y a du bétail, hein, il y avait 12 vaches, quoi. Et puis il y avait du foin, de la paille, il fallait reprendre tout ça, mais il fallait y comptabiliser pour que ce soit fait en ordre.
Heureusement que le père d'Antoine lui avait donné ce conseil parce que l'année suivante, l'oncle est décédé. Ni une ni deux, le cousin qui était en Espagne est revenu et lui a dit « Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» Antoine a fait comme s'il n'avait pas compris. Le cousin voulait reprendre la ferme de son père. Antoine a fait valoir ses droits et son contrat. Et ils ont pu encore rester 5 ans sur le domaine, sans quoi ils se seraient retrouvés à la rue. Au bout de ces années, les cousins voulaient absolument vendre le domaine. Mais surtout pas à Antoine ni à son frère. Hein, pas simple la famille. Alors ils ont dû partir. Mais comme dit Antoine, Dieu a tout conduit. Ils ont pu faire construire une maison entre Duillet et Prangin et continuer à cultiver les vignes qui restaient à Gland et quelques autres terrains. La vie s'est écoulée tranquillement, avec ses hauts, ses bas. Et puis un jour, il a fallu qu'il se sépare de son bétail. C'était ce qu'il aimait faire, prendre soin de ses vaches. Il l'explique avec son flegme vaudois que les Anglais devraient lui envier.
Pas spécialement grand changement, il y a eu, oui, des changements de structure. Il a fallu que je me sépare de mon bétail, de 25 vaches à l'écurie. Il a fallu les vendre. Alors, le premier hiver, quand j'ai vu cette écurie vide, ça m'a fait, pas un choc, mais ça me faisait mal, parce que on avait l'habitude, à 5 heures du soir, quand on taillait les arbres, froid aux mains, on allait à l'écurie. On avait du travail au chaud un moment avant la soirée. Et puis tout d'un coup, ces écuries vides et froides, ça m'a chicané un peu. Mais je n'en ai pas fait une maladie. Mais disons que l'arrêt de ce contact avec le bétail, parce que j'étais un homme à bétail. J'aimais beaucoup les vaches, les veaux, tout ça, c'était ma vie, quoi.
En se retournant sur sa vie, Antoine dit qu'il a eu une vie heureuse, sauf peut-être pendant son année en Suisse allemande, quand il avait 17 ans. Récemment, il a réalisé que tout au long de sa vie, Dieu a été en filigrane dans son histoire.
Ouais, je ne réalisais pas autant que je réaliserais aujourd'hui la main de Dieu. Même qu'on en était conscient que Dieu était au-dessus de nous, parce qu'on se référait à notre Dieu, parce tous les jours, hein. On priait quand même tous les jours, notre couple, et je peux dire qu'on ne s'est pas rendu compte que Dieu nous menait dans ce chemin.
Et c'est vrai que lorsqu'on parle avec lui, la gratitude est souvent dans ses paroles. Même quand il s'est agi de quitter leur maison, ils avaient bien pensé rester et rénover cette maison. Mais justement, ça ne s'est pas fait. Ils ont remis cette décision dans la prière et c'est comme si Dieu leur disait « Hé, attendez, j'ai quelque chose de mieux pour vous ». Et voilà qu'ils se retrouvent dans un appartement en pleine ville. Antoine, les étoiles plein les yeux, me dit « Oh, c'est merveilleux !» La vie qu'il a aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'il a fait. À part peut-être quand il va visiter le troupeau de vaches qui ne broute pas loin de chez lui. Les regarder lui suffit. Il n'a pas vraiment de souhait pour l'avenir, à part peut-être apprendre à cuisiner. Enfin, quand sa femme le laisse faire.
Moi, j'aimerais apprendre un petit peu à faire de la cuisine. Ce que je fais pour certaines choses, je fais volontiers des endives au jambon. Hein, je fais volontiers une fondue, je fais volontiers du papé vaudois avec de la saucisse au chou, ça j'arrive très bien à faire. Par contre, quand je dois demander de l'aide, Milka, elle a l'habitude de faire. Alors elle vient puis elle fait. Puis voilà, j'apprends pas beaucoup. Mais en fait, je suis très reconnaissant d'avoir une femme qui fait tout. Même la lessive, tout ça. J'ai jamais appris à repasser une chemise, moi. Hein, c'est pas mon boulot, mais... Elle me dit, mais tu pourrais le faire. Oui, je pourrais le faire, mais... Voilà, quand je veux le faire, t'as déjà fait. Alors, voilà la vie qu'on a. Non, mais je ne regrette rien du tout.
En préparation de notre conversation, je lui ai laissé cette question. As-tu quelque chose à dire à la jeune génération ?
Oui, j'avais noté quelque chose que je veux. Alors, qu'est-ce que j'ai bien noté ? Si j'arrive à me relire un petit peu. pour les jeunes. Je leur dis par la foi, apprenons à la connaître comme le seul vrai Dieu qui est tout en tous. Excuse-moi, c'est une émotion. C'est vrai que sans Dieu, on n'avance pas. Il nous a aidés aussi. Quelquefois, on devait rentrer du foin. Un samedi soir, bon, voilà, le temps va changer, ça va mouiller notre foin. Puis tout d'un coup, non, la pluie s'arrête. Et on rentre notre foin. Puis un tas de petites choses comme ça qui sont arrivées. Bref, les choses se sont bien passées, on n'a jamais manqué de rien.
Je ne manquerai de rien. Le texte qui me vient à l'esprit, c'est le très connu psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et je trouve qu'il sied particulièrement à Antoine, lui qui a cultivé la terre toute sa vie et qui a fait paître des animaux. Il sait ce que ça signifie. Dieu prend soin jusque dans les petites choses de la vie. Surtout dans les petites choses de la vie. Antoine, en regardant en arrière, put alors affirmer encore une fois.
Tout à fait, oui, tout à fait, oui, oui. Je ne manquerai de rien.
J'ai été touchée par la sensibilité d'Antoine. Nous avons ri ensemble.
Tu fais rire, Antoine.
Nous avons versé quelques larmes. D'ailleurs, il me dit...
On verra pas les larmes.
Ce à quoi je lui ai répondu, on les entendra peut-être. Vous avez écouté, il était une fois des sages. À bientôt pour un prochain épisode.